Le cercle rouge de Edgar Wallace. Chapitre 33. Une nuit blanche. Parr ne se révéla pas très jovial compagnon de voyage. Durant tout le trajet, il s'absorba dans la lecture des journaux qui commentaient sans se lasser les derniers attentats du Cercle Rouge. Jack s'étonna de le voir, lui, si calme et flegmatique, prendre un tel intérêt aux attaques dont il était lui-même l'objet. Il le lui dit. Le chef de la sûreté posa la feuille qu'il lisait et enleva son gros pince-nez à monture d'acier.
« Je ne sais trop ce qui me pousse. Mais, après tout, les critiques ne font pas de mal. C'est seulement quand on a tort, et qu'on le sait, que ces diatribes vous irritent. Je sais que j'ai raison, et ces articles ne m'offensent nullement. »
Ils débarquèrent à la petite gare de campagne, et firent en auto les 5 kilomètres qui les séparaient de la villa Beardmore. À peine était-il arrivé que le régisseur tendit à l'inspecteur un télégramme reçu quelques minutes plus tôt. Le chef de la sûreté déchira l'enveloppe et lut « Revenez vite, événement important, Yale ». Sans un mot, il tendit le télégramme à Jack.
Oh, « quel dommage !» s'écria ce dernier. « Et il n'y a plus qu'un train à 9 heures. »«
Je n'ai nulle intention de le prendre, » dit calmement Parr. « Mon voyage m'a déjà fatigué. Tant pis, cela attendra. »
Cette décision surprit un peu Jack, qui voyait surtout en Parr un homme de devoir. Mais il était aussi fort heureux de le garder pour sa première nuit dans cette maison, dont tous les recoins lui paraissaient peuplés de fantômes. Parr reprit et considéra encore le télégramme.
Il a été expédié une demi-heure à peine après notre départ de Londres, dit-il. Vous avez le téléphone ici, n'est-ce pas?
Oui, à votre service. Parr demanda la communication avec Londres. Un bon quart d'heure s'écoula avant qu'il l'obtînt.
« C'est bien ce que j'avais pensé, » dit-il à son retour au salon. « Ce télégramme est un faux. Je viens de téléphoner à Yale. »
« Qu'est-ce qui vous a fait supposer qu'il n'était pas authentique ?»«
Ah, c'est que... » répondit Parr en souriant. C'est que ma faculté de divination se développe et fera bientôt concurrence à celle de notre ami Yale.
Ils passèrent la soirée à jouer au piquet. Parr y était maître. Et, comme il n'est peut-être guère de jeu plus passionnant pour deux solitaires, ils se laissèrent surprendre par les 12 coups de minuit à la pendule du hall. La chambre de Parr était celle qu'avait occupée de son vivant M. James Beardmore.
« Où est votre propre chambre ?»
demanda le chef de la sûreté au jeune homme.
« À côté, » répondit-il.
Parr entendit la porte de Jack se refermer, puis enleva son veston. Mais au lieu de continuer à se dévêtir, il prit dans son sac et endossa une vieille robe de chambre légère, éteignit la lumière et alla ouvrir les volets de ses fenêtres. La nuit n'étant pas très obscure, il retrouva facilement son lit sur lequel il alla s'étendre tel qu'il était. Avec beaucoup de volonté, il réussit à ne pas fermer les yeux. Vers le matin, mais bien avant le jour, il se leva et alla sans bruit s'accouder à la fenêtre la plus proche. il avait cru entendre au loin la trépidation assourdie d'un moteur. Mais maintenant, le silence était complet. Il alla à son lavabo, se mouilla la face avec de l'eau fraîche et se sécha sans hâte. Puis il revint à la fenêtre, en approcha une chaise et s'installa de façon que sa vue s'étendît sur toute l'avenue qui conduisait à la villa. Une demi-heure s'écoula. Alors, il aperçut une ombre qui sortit de l'abri des arbres, s'avança un peu, puis disparut. Au bout d'un instant, elle réapparut une seconde, plus près de la maison. Et encore une fois, au moment d'atteindre l'ombre de la villa. Par sortit doucement de sa chambre, descendit l'escalier à tâtons. La porte d'entrée était solidement verrouillée, et il perdit un peu de temps à l'ouvrir sans bruit. Lorsqu'il fut dehors, il n'aperçut personne. Il contourna la maison, sans rien voir d'insolite. Mais en revenant à la porte d'entrée, il entendit de nouveau le bruit lointain d'une auto. Le visiteur nocturne était reparti. Il referma soigneusement la porte d'entrée et remonta à sa chambre. L'incident l'intriguait. Il était clair que l'homme, quel qu'il fût, n'avait pas su qu'il était observé. Il devait être reparti aussitôt. Ce ne fut qu'au cours du déjeuner que le mystère fut éclairci. Jack lisait et relisait un carton chiffonné dont l'aspect frappa l'inspecteur. On eût dit un message du Cercle Rouge.
« Que pensez-vous de cela ?»
dit le jeune homme en lui tendant le document.
« J'ai trouvé le pli accroché à un arbuste au-dessous de ma fenêtre. »
Par lui. « La dette de votre père n'est pas encore payée. Nous vous en tiendrons quitte si vous persuadez vos amis Yale et Parr de cesser leur activité contre nous. »
Un peu au-dessous et en plus petit caractère, on avait écrit, évidemment après coup,
« Nous cesserons nos démarches auprès des particuliers. »
C'était donc leur émissaire, dit Parr d'un air songeur. Je me demandais pourquoi il repartait si vite.
Vous avez vu le porteur de ce message ? S'écria Jack.
Je n'ai fait que l'entrevoir. En réalité, je m'attendais à la visite d'un membre du Cercle Rouge, et même à des conséquences plus graves.
Il s'assit à table et ne proféra plus mot jusqu'à la fin du repas. Alors, il rompit brusquement le silence en disant à brûle-pourpoint à Jack
« Je me demande s'il sait que vous aimez Talia Drummond. »
Jack rougit.
« Pourquoi cette question ?
Croyez-vous qu'il soit capable de se venger sur Talia ?
Ils en seraient tout à fait capables, si cela servait leur dessein. Mais voyons, ne perdons pas notre temps. Je voudrais me rendre compte de ce qui a effrayé Marle le jour de sa visite à votre père. Pouvez-vous me désigner le point précis où il se trouvait lorsqu'il a manifesté tant d'émotions ?
Parfaitement, venez. Le jeune homme lui montra le coin d'un massif que Marle avait piétiné en reculant vivement au moment de son accès de frayeur.
« Je me rappelle très bien de l'endroit, » dit-il. Le jardinier ayant dû remplacer une bouture de rosier qu'il venait de planter.
part, alla se placer à l'endroit désigné et dit à mi-voix
« Je savais bien qu'il mentait. »
Et il ajouta tout haut
« On ne peut apercevoir la terrasse d'ici. Or, Marl m'a dit que c'est au moment où il arrivait en vue de cette terrasse où se trouvait votre père qu'il a été saisi de son étrange crise. Et mon impression première était que c'était la vue soudaine de votre père qui l'avait effrayé.
« J'aurais pu rétablir la vérité sur ce point, » répondit Jack. « Mon père n'est pas sorti de son cabinet de travail de toute la matinée. Il n'est venu à la porte vitrée qu'au moment où nous montions déjà les escaliers de la terrasse. »
Parr fit un rapide croquis de l'emplacement, puis conclut.
« Je crois que j'ai vu tout ce que je voulais voir. »
En revenant à la maison, il reparla du dernier message du Cercle Rouge.
C'est là une fausse manœuvre de sa part, et il n'en fait pas beaucoup, dit-il à la grande surprise de son hôte. Il s'assit sur les escaliers de la terrasse, perdu dans ses pensées. Il ressemblait plus à un bon gros rentier qu'à un fin détective. Mais il y eut dans ses dernières paroles une assurance qui fit plaisir à Jack. J'y suis. Ma première idée était la bonne. C'est le chef même du Cercle Rouge qui est venu cette nuit. Il vous a porté le message contenu dans la première partie de sa lettre. En cours de route, il lui est venu une grande idée. Et il a ajouté son espèce de post-scriptum au dernier moment. Ainsi, ce qu'il dit de Yale et de moi peut être exact. Il désire fort nous écarter de son chemin, mais il est bien fou s'il s'imagine que nous y consentirons jamais. Voulez-vous me faire voir encore cette lettre ?
Il l'examina de nouveau.
« Oui, » reprit-il. La seconde partie a été écrite plus précipitamment que la première, probablement dans l'auto.
Parr se frotta le menton et conclut.
Quel est donc son plan?
Il devait l'apprendre plus vite qu'il ne pensait, car au même moment, un domestique vint dire en courant que le téléphone sonnait depuis plusieurs minutes dans le cabinet de travail de Jack.
« C'est pour vous !»
dit le jeune homme après avoir répondu. Et il tendit le récepteur au chef de la sûreté. Il reconnut la voix du préfet.
« Revenez immédiatement !» lui dit celui-ci. « Vous êtes convoqué au Conseil des ministres cet après-midi. »
Lorsque Parr raccrocha le récepteur, un large sourire éclairait sa placide physionomie.
« Qui est-ce ? »
lui demanda Jack.
« J'assiste au Conseil des ministres, » répondit-il.
Et il se mit à rire comme jamais le jeune homme ne l'en aurait cru capable.